et la transférer au modèle électrique, on
bonne
ne
question.
Sait pas. Non, mais c'est vraiment important.
Parce qu'il y a encore des routes à entretenir.
Oui, c'est sûr que le Québec va gagner sur le bilan énergétique, c'est-à-dire qu'on va, dans nos importations et exportations, on va arrêter d'importer autant de pétrole qu'avant pour l'automobile ou pour le VUS petit. Mais d'un point de vue purement balancement de l'économie et balancement des taxes, la question est où on va prendre de l'argent qui est pris présentement sur l'essence. Moi, ça fait un an que je paye plus de taxes sur l'essence.
Ça fait longtemps que tu poses cette question-là.
Ben, c'est parce, peut-être que je me fais subventionner pour remplir ma voiture présentement. C'est ça, la réalité. C'est que...
Électrique, tu veux dire.
Électrique, oui, parce que quand je branche ça dans mon panneau de 200 ampères, mon panneau fait pas de différence entre si tu pour la voiture, la sécheuse ou pour faire à manger.
Mais il y a casse-tête, Pierre-Yves, parce qu'ils peuvent pas vraiment, disons, en tout cas, pour la borne à la maison, ils peuvent pas différencier pourquoi tu utilises l'électricité, non?
Ton compteur intelligent, éventuellement, pourrait très bien fermer ton chauffe-eau pendant que tu dors. Okay. Fait que s'il peut fermer ton chauffe-eau, il peut regarder l'ampérage. On peut dédier, on peut mettre une puce, on peut tout faire, Patrick. C'est une question de politique, de volonté, mais surtout d'équilibre de marché. Pour l'instant, on dit aux gens, votre voiture électrique est plus chère, vos assurances sont plus chères, on subventionne encore la voiture, donc on va pas taxer l'hydroélectricité. Mais le jour où tout ça disparaît, puis que les prix sont égaux, puis qu'il y a du monde qui remplisse leur voiture pour 200$ et d'autres pour 5$, 10$, il y aura ce calcul-là qui sera fait, et il y aura peut-être même une taxe à la borne à la maison, une taxe fixe par mois ou par année.
Ce serait pas plus juste d'avoir une taxe kilométrique dans ce contexte-là?
Si on peut mesurer, oui, si toutes les voitures sont bien menues. Oui, t'as raison.
Technologiquement,
ça se peut pour la voiture, t'as raison, parce qu'on peut faire, on peut vérifier, Patrick, comment tu conduis présentement. T'sais, moi, j'ai pas accepté ça, l'ajusto.
Ah oui, le petit bidule dans le mouchard dans ton auto. Là.
Ben, le mouchard est un peu trop intense, mais ça va venir. Oui. Éventuellement, les assurances vont tous faire ça. C'est que présentement, il n'y a pas toutes les voitures qu'on peut mesurer le comportement du consommateur. Et donc, il y a dans la théorie de l'agence, une boîte noire qui est quel est le véritable comportement du consommateur ou de l'assuré. Mais quand tout le monde a une voiture électrique avec une application puis qu'on pourra la rentrer dans la voiture et que même les constructeurs seront de connivence, si ça arrive, c'est sûr que ça va arriver. Ça.
Parfait. Parlons d'immobilier maintenant, de construction, de logements, de maisons, etc. La SCHL qui parle de la capacité future du Canada à construire des logements.
Moi, ce que j'ai aimé de la SCHL, c'est qu'on joue pas à l'hypocrite. On dit, regardez, on n'a jamais eu autant de travailleurs de la construction. On a des ressources humaines, mais on ne va pas au rythme des ressources humaines. Et si on regarde le plan du fédéral, ça ne fonctionne pas. On pourrait construire plus de logements, entre 130 000 et 225 000 logements de plus par année. Et ça, c'est dû au fait qu'on est sous-productif et peut-être la conjoncture. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le graphique sur les grandes villes canadiennes, 6 grandes villes et l'agglomération. Quand on regarde Vancouver, Calgary, Edmonton, Toronto, Ottawa et Montréal, le nombre de mises en chantier par 1000 habitants à Montréal est famélique. C'est-à-dire qu'à Montréal, on ne construit plus. Mm-hmm. On a la vieille immobilisation. Et ce sont les couronnes qui compensent. Et plus loin, les couronnes et loyers parce qu'ils ne rentrent pas dans l'agglomération. Donc, on est en train de bâtir ailleurs au Québec, mais à Montréal, on prend du retard.
Pierre-Yves, est-ce que tu dirais que, bon, les propos de Pierre Poilievre il y a quelques mois, là, étaient peut-être un peu forts de café dans la forme quand il disait que les maires, par exemple, de Montréal construisent pas assez. Mais sur le fond, il y avait raison. Ces villes-là sont en retard.
Ah, elles sont assez. Mais est-ce que c'est la faute des maires? Est-ce que c'est la faute des permis? Est-ce que c'est la faute du coût des terrains? Est-ce que c'est la faute du taux d'intérêt qui a augmenté dans les dernières années puis ça devenait beaucoup plus facile pour, dans un Québec comme on a, de construire en région sur des terrains beaucoup plus disponibles? Parce que c'est ça l'enjeu aussi. C'est facile de taper sur la tête de Montréal, exemple. Mais Montréal et ses banlieues s'est développé. Peut-être qu'ailleurs au Canada, si t'es allé à Calgary, entre l'aéroport et le centre-ville de Calgary, on s'est mis à imprimer des maisons pendant le boom pétrolier à l'époque. Et donc, ça dépend du contexte de chacune des grandes villes. Vancouver n'a pas la même capacité non plus d'accueillir. Pourtant, on construit plus. La question, c'est, on est peut-être plus dense. La vraie question à Montréal, c'est ça. C'est-à-dire, on a des quartiers hauts de 2 étages, 3 étages. Puis sur les grandes artères, là, on se met à construire. D'ailleurs, toi et moi, on est dans un studio avec une belle caméra qui monte Griffintown. Je me souviens très bien alors que ça,
c'était un 20 étages facile.
Ça, c'était des champs de mines, moi, quand j'ai commencé à travailler au centre-ville. Et donc, si on va dans l'est de la ville, dans Villeray et ailleurs, est-ce qu'on est prêt à faire ce dont je t'avais déjà parlé? C'est des actes de dire... Les 1 étage, 2 étages, on est-tu prêt à augmenter 1 étage de plus, à mettre plus d'ombre dans les cours, à densifier Montréal, à revoir notre vision du développement?
La réponse ces jours-ci, c'est pas mal non, je te dirais.
C'est non encore, mais entre mettre des gens à la rue et avoir des logements avec des prix qui sont surévalués ou trop chers parce que les gens peuvent pas payer, ou avoir un patrimoine qu'on aime, qu'est-ce qu'on va choisir? Là, je veux pas te mettre un faux dilemme devant les yeux. On va laisser ça aux spécialistes de l'urbanisme à Montréal.
Merci, Pierre-Yves. Au retour aux politiques américaines avec Valérie.
Vous connaissez quelqu'un qui s'est illustré dans un domaine sportif? Contactez Sport à commercial cfxrimouski.com. Vous faites partie d'une organisation sportive? Votre équipe participe à un tournoi? Contactez-nous, CFX FM 93, la référence pour tout ce qui se passe dans la région.
Pour une touche de magie, partagez le plaisir avec Sensation Plus et découvrez une foule d'idées cadeaux qui feront sensation, huile, jouets, lingerie et bien plus. Partagez le plaisir. SensationPlus.com. Livraison rapide et discrète.
Son X Plus Rimouski vous offre son kiosque de téléphone cellulaire Vidéotron avec des produits tels qu'iPhone, Motorola, TCL, Google et Samsung avec sa gamme S24. De plus, profitez des forfaits incluant une tonne de données par mois et une banque annuelle de données supplémentaires. Le tout à partir de seulement 35$ par mois plus taxes, appels et textos illimités au Canada. Certaines conditions s'appliquent. Détails en magasin au 150 Avenue Belle-Île ou au sonxplusrimouski.com.
Ne manquez pas la toute nouvelle chronique de Sébastien Desjardins de H. Grégoire Rimouski. Démystifions la vente de véhicules usagés et tout ce qui l'entoure. Il a de bons conseils pour vous. Soyez au rendez-vous tous les vendredis à 9h15. Une présentation de H. Grégoire Rimouski.
Ici, c'est CFX FM 93.
Nouvelle régionale.
Voici vos nouvelles du 16 mai 2024. On connaît maintenant l'identité de l'homme d'affaires intéressé à acheter le club de golf Bic. Les quelques 300 actionnaires du club étudient aujourd'hui l'offre d'achat d'Éric Fournier, un Rimouskois d'origine qui a été associé à la réputée entreprise événementielle Moment Factory. Celle-ci a notamment travaillé pour Sony et pour les entreprises Disney. Selon Radio-Canada, M. Fournier a vendu ses parts de Moment Factory après y avoir été associé pendant 17 ans. Les actionnaires du club de golf doivent se prononcer sur l'offre d'achat déposée par M. Fournier aujourd'hui. Le conseil d'administration fournira plus de détails demain. Le Centre intégré santé et services sociaux du Bas-Saint-Laurent lance une offensive sans précédent dans la recherche de partenaires pour ouvrir de nouvelles places en résidence pour personnes aînées. Un appel d'intérêt de 130 places en ressources intermédiaires pour des personnes avec des besoins particuliers est lancé. La demande est grandissante. 4 MRC de l'Est du Bas-Saint-Laurent sont celles où les besoins sont les plus importants. Un premier appel d'offres a été réalisé pour 60 places dans la Métis, la Matanie et la Matapédia, soit 20 places pour des aînés en perte d'autonomie et 40 pour des personnes avec des troubles cognitifs. Les coupures de service annoncées de Desjardins à Sainte-Luce et à Saint-Gabriel, entre autres, font réagir à son tour le député de Matane-Matapédia. Pascal Bérubé réitère que par ses décisions, Desjardins envoie un mauvais signal à notre région. Il rappelle que lors de la dernière vague de regroupement et de fermeture, Desjardins disait compenser ceux-ci par le maintien de points de service comme celui de Saint-Gabriel. Il se demande pourquoi cet engagement ne tient plus. Il ajoute que ces nouvelles annonces de fermeture envoient un message de désengagement de Desjardins envers la région. Certains citoyens devront parcourir près de 90 km pour avoir accès à des services. Et finalement, la trentaine de pêcheurs de crabes des neiges de la zone 17 sont satisfaits de la saison de pêche entamée fin mars. Plusieurs d'entre eux ont atteint leur quota et ont même déjà retiré leur casier hors des eaux du Saint-Laurent. Quelques autres sont en bonne voie d'atteindre leur ratio de cueillette et le feront dans les prochains jours. C'était Pierre Michaud pour vos informations. Nos nouvelles se trouvent sur cfxrimouski.com.
Réveil Rimouski vous parvient en direct du studio McDonald's du lundi au vendredi de 6h à 10h. CFX FM 93.
À jour. Procès Trump.
Bonjour Valérie.
Salut Patrick.
On a deux procès à se mettre sous la dent. On parle beaucoup du procès criminel de M. Trump pour avoir falsifié, semble-t-il, des livres comptables de son entreprise pour camoufler le fait qu'il avait fait un paiement à une star du porno. Tout ça pour avoir un impact sur l'élection américaine de 2016. Mais il y a aussi le procès criminel d'un sénateur américain du New Jersey.
Oui, pour la mise à jour du procès Trump, tout d'abord, écoute, c'était le contre-interrogatoire de Michael Cohen. Et oui, ce n'est pas terminé. Hein, ça fait déjà quoi, 2 jours qu'on s'en parle. Hier, il y avait une pause, on s'en est parlé. Mm-hmm. Mardi, ça va même se poursuivre lundi parce que demain, le procès fait relâche. Et Michael Cohen a été encore cuisiné. Et je te dirais que c'était une très, très, très mauvaise journée pour Michael Cohen, l'ancien avocat de Donald Trump. Je ne suis pas dans la cour, alors je me fie bien sûr à ce que les journalistes judiciaires rapportent de ce qui se passe parce que c'est pas télévisé. Mais il a dit de nouveaux mensonges. Il a dit, ah oui, ça, j'ai menti pour ça. Par exemple, il a dit qu'il acceptait toute responsabilité lorsqu'il a eu sa sentence pour faire de la prison dans un dossier pour fraude. Il a dit, j'ai menti, je pensais pas que j'avais toute la responsabilité. Il a aussi dit qu'il a tendance à blâmer les autres pour ses problèmes personnels. Il était plus certain d'un appel fait au sujet, dit-il, de Stormy Daniels en 2016. Bref, il a été très, très bien cuisiné et on dit que Donald Trump avait un petit sourire en coin. Hein. Je pense qu'il apprécie ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça veut pas dire que les membres du jury vont pas le croire, mais c'était une journée beaucoup plus difficile.
Là, le procès arrive proche de la fin. Est-ce qu'on sait si M. Trump va témoigner?
On le sait pas encore. Il a le droit de le faire ou il a le droit de refuser de le faire. Il semblait au départ dire qu'il voulait témoigner et par la suite, il a changé d'idée en disant que le juge ne lui permettait pas de témoigner. Ce qui est pas vrai, on s'en est parlé à l'émission. Mm-hmm. Donc, on verra s'il veut le faire. J'ai l'impression, mon intuition personnelle, c'est qu'il ne le fera pas. Les risques sont trop grands et Donald Trump est son pire ennemi. Je pense que s'il écoute ses avocats, il va, se contenter d'écouter ce qui se passe en cours et ne pas témoigner. Je pense que ça serait la sage décision pour lui.
Parlons de l'autre procès criminel là, qui touche la vie politique américaine, celui de Bob Menendez. C'est un sénateur démocrate.
Oui, écoute, c'est une autre histoire digne d'Hollywood. Hein? Écoute, j'adore mon métier, Patrick, à voir toutes ces histoires et ces procès.
T'aurais dû étudier en droit pour couvrir la politique américaine,
je pense. Sincèrement, je suis en train de penser de faire un cours complémentaire pour le sur du droit américain parce que je trouve que ça me sert pas mal souvent. Là, mes connaissances sont assez limitées, mais quand même, Bob Menendez, c'est qui ça? C'est un politicien qui a 30 ans d'expérience à Washington. Il vient du New Jersey, donc c'est un sénateur du New Jersey, mais bien sûr qui travaille à Washington au Congrès. Très haut placé, il était à la tête du comité sur les affaires étrangères, donc rien de moins. Il était respecté, a déjà un premier procès en corruption, et là, c'est le deuxième. Écoute l'histoire. Ce qu'on a découvert chez lui, il y a eu des perquisitions du FBI, on a trouvé des lingots d'or. On a trouvé 400 000 $ en argent comptant.
Qui a pas des centaines de milliers de dollars dans une boîte à souliers à maison?
Écoute, je vais fouiller au cas que quelqu'un en a oublié ici quand j'ai déménagé, mais je t'avoue ne pas avoir ça. Et lui, sa justification, c'est que son père lui a dit, comme il y a un héritage cubain, qu'il y avait un danger de se faire saisir son argent par le gouvernement. Alors, c'est pour ça qu'il a mis 400 000 $ là, comme ça dans sa maison, des lingots d'or, une voiture Mercedes à 60 000 $ payée. Et tout ça parce qu'on dit qu'il a reçu des pots de vin, clairement, d'intérêt en Égypte et au Qatar. Et je rappelle qu'il était sur le comité des affaires étrangères. Mais écoute bien la stratégie de la défense parce que le procès a débuté aujourd'hui. Je vais te résumer ça en une phrase. Merci. C'est la faute de ma femme. Il dit qu'il n'était pas au courant, que les lingots étaient dans le garde-robe de madame et que finalement, c'est elle qui a tout orchestré.
Est-elle accusée elle-même?
Oui, elle est accusée aussi. Elle a un procès au mois de juillet, si je me trompe pas, dans un procès séparé. Hey, le souper, ça doit être intéressant, les deux.
Je peux pas croire qu'il n'ait pas demandé à Mme Menendez si elle était d'accord avec sa stratégie de défense.
Écoute, sûrement peut-être qu'il lui a demandé. Si on écoute notre footballeur d'hier qui dit que les femmes doivent être soumises à leur homme, peut-être qu'elle a accepté cette théorie, mais...
Valérie, tu sais, de nos jours, là, à part pour payer la gardienne, donner de l'argent aux sans-abri qui mendient, avoir de l'argent cash, c'est de plus en plus rare. Avoir 400 000 piastres cash, ça sent la corruption.
Tu dis quelques milliers de dollars. Si, par exemple, tu fais pas confiance, je sais pas, aux banques, il veut avoir de l'argent, s'il y a une urgence, quelque chose, je comprends. Et là, on parle de 400 000 $ en argent comptant. Je sais même pas où ça se range dans une maison. Est-ce que c'était sous le matelas? Je t'avoue que j'ai pas regardé.
Ça dépend des coupures. C'est-tu des 20 ou des 100 piastres?
Oui. Ou des 1 $ c'est une autre histoire.
Est-ce qu'il est encore sénateur, Menendez?
Oui, il est encore sénateur. Il refuse de démissionner. Il dit qu'il va prouver son innocence. Il dit qu'il va peut-être même se représenter cette fois-ci comme indépendant. Alors lui, il lâche pas le morceau. Il dit, je vais me défendre jusqu'au bout. Vous allez voir, j'ai rien fait de mal. C'est entre guillemets une autre chasse aux sorcières, mais cette fois-ci pour un démocrate. Et il y a beaucoup de ses collègues qui le poussent à démissionner parce que, tu sais, ça paraît pas très bien, ce genre d'enquête en corruption. Disons que les apparences, Il est innocent jusqu'à preuve du contraire, mm-hmm. mais je sais pas, avec la lueur de ce que je viens de te dire, ça sent pas bon. Je veux dire ça comme ça.
Bon, écoute, il pourrait adopter la stratégie de M. Trump et dire que c'est politiquement motivé puis qu'on veut on veut l'empêcher de se représenter.
Et peut-être que quelqu'un a mis les lingots d'or là à son insu pendant la nuit.
Valérie, les lingots d'or, qui a des lingots d'or, mettons?
Je sais pas.
T'sais, à part